Radio Barque, notre 22e partie, prévoit dans son sommaire une étude de mœurs, Michel. En tout cas, c'est ce que tu annonçais dans un billet.
Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion à quelques reprises plutôt, hein, dans les billets que je donne pratiquement tous les jours et qui sont diffusés sur mon blog. Des analyses sur ce que je considère comme étant des restes, en fait, entre guillemets, hein, culturels de pratiques de l'Ancien Régime. Hein. Alors, c'est le copain institutionnel, je pourrais faire un cours ici rapidement pour montrer effectivement.
Mais voilà. Il nous faudrait plusieurs émissions. Ça ne tiendrait pas dans une seule.
Non, là, simplement sur des mœurs, quoi, hein, sur des pratiques. Sur des pratiques, disons, politiques entre.
Enfin, ces derniers temps, on est gâtés.
Concernant ce que j'appelle la noblesse d'État et la noblesse de province. Alors, la noblesse d'État, évidemment, je fais allusion, en fait, aux grands élus, quoi, entre guillemets, grands élus, parce qu'on peut très bien être député et être petitement élu, je veux dire, du point de vue intellectuel de sa pratique politique, et inversement, peut-être un petit élu en fait, de province, et en même temps être un grand en fait, élu du point de vue de son comportement et de ses actions.
Alors,
donc tout ça prend relativement quant aux adjectifs en tout cas. Donc, alors évidemment, en ce moment, Dieu sait si la circonstance se prête à ce genre d'analyse, quoi. Hein. Bon, je ne veux pas revenir sur ce qui se dit, ce qui se diffuse, ce qui se commente sur toutes les radios, la télévision, dans les journaux, à propos d'un candidat.
Hein, précisons qu'à Radio Barque, nous sommes habillés par nous-mêmes, à nos frais.
Ah oui, ça, je ne suis pas habillé par... Sur la caisse de ta radio, Jean-Claude, ça se saurait d'ailleurs, ça se verrait peut-être aussi.
Hein.
Alors j'observe quand même, ce que j'observe, c'est que si l'opinion publique de manière générale, comme les grands médias, sont d'une extrême sévérité à l'égard de ce que j'appelle la noblesse d'État, hein, elle est par contre d'une très grande discrétion, pour ne pas dire d'une très grande tolérance, envers la seconde quant à ses mœurs, que je considère comme étant des restes de l'Ancien Régime. Hein. Alors c'est vrai que la proximité géographique et humaine hein, entre un élu d'une aglo, hein, comme le président Jacques Bascou, qui est à nos côtés, un maire, en fait, ou un président d'un conseil départemental, et puis bon, son territoire, à la fois physique, mais aussi humain, quoi, hein, ses élus qui composent sa majorité, hein, les familles de ses élus, qui sont relativement proches, ou tout simplement ses électeurs.
Alors, cette proximité occasionne quoi ?
Fait que, effectivement, on peut pas ne pas constater certaines pratiques qui relèvent, sans trop exagérer, de ce que dans notre territoire, disons, de la péninsule italienne, on pourrait considérer comme des pratiques claniques ou clientélistes. Alors, ça prend pas les dimensions brutales que ça a dans ce pays-là, bon, je n'insiste pas, mais quand même, quoi, hein, on sollicite un piston, on l'obtient, un petit coup de course pour un emploi, un passe-droit, une dérogation de marché, enfin, que sais-je, hein, bref, l'espérance d'une faveur annihile hein, souvent dans ces régions-là, comme les nôtres, toute velléité de contestation publique et de reprise par la presse d'un certain nombre de faits constatés. D'autant que les médias locaux, en fait, en question, hein, ne sont guère enclins, effectivement, à faire du zèle, quoi.
Ben, ils sont dénoncer. Trop dépendants, à ce moment-là.
Ben oui. Jean-Claude, tout le monde sait que leur suivi financier dépend en grande partie des pages publicitaires de ces mêmes institutions.
Voilà. Il n'y a pas de canard enchaîné en province.
Non, mais nos auditeurs peuvent constater que pratiquement tous les jours, ou presque, il y a des publicités, du conseil régional ou du conseil départemental ou d'une commune, etc.
Oui, en ce qui concerne la région, d'ailleurs, ce sont des pleines pages.
Ah oui, ça y va.
Il y a l'abondance.
On peut dire que Madame Baillet, qui est la nouvelle propriétaire, en fait, formellement, en tout cas, du groupe, hein, dont Madame Pinel, en fait, est une des vice-présidentes, qui est une amie proche, quoi, hein, de la région, bénéficie largement de la manne budgétaire du conseil régional, en fait, et pour faire vivre sa presse.
Voilà. Bon, sur l'efficacité de ces pubs, ça, il faudrait poser le problème. Mais enfin, bon, budgétairement, c'est sûr et c'est clair.
Oui, c'est ça. Bon, on peut considérer, après tout, que c'est une aide directe à la survie financière de ces groupes qui peut-être disparaîtrait, au grand désespoir de nos lecteurs, en fait, locaux. Enfin, bon, passons, quoi. Hein. Mais bref.
Donc,
quand
le clientélisme, ben oui, mais...
On peut donner quelques exemples.
Il existe, ce n'est pas d'aujourd'hui.
Non, c'est pas d'aujourd'hui.
Et ça sera sans doute de demain encore, à moins que...
Bon, je vais donner quelques exemples, deux, trois qui concernent notre région, quoi, de manière générale, quoi, hein, qui par exemple va s'étonner de constater que dans notre grande région, un directeur général des services d'une aglo, quoi, hein, soit le papa du directeur de cabinet, du président du conseil départemental de cette même aglo.
Oui, bon, ça fait dynastie, c'est vrai. Hein,
je pourrais en rajouter d'autres, en fait, hein, qui est plus ou moins lié, en fait, hein, voilà, qui manifeste, comment dirais-je, une certaine cohabitation, consanguinité entre le conseil départemental.
Alors un petit mot.
Hein, non, c'est pas Narbonne, évidemment. Voilà, je rassure, en fait. Hein,
nous oui, c'est le chef-lieu. Hein. C'est le
oui, chef-lieu. Oui, je vois Basque qui lève le doigt. Il dit, non, c'est pas moi. Non, bien sûr. Bon, hein,
même si je l'aurais dit. Même si l'un est passé par Narbonne.
Même si je l'aurais dit.
Il n'y est plus.
Qui va s'étonner, notamment, et qui rapportera dans la presse locale que la propre fille, en fait, de la patronne du groupe, hein, La Dépêche, L'Indépendant et Midi Libre, est aussi la salariée d'une filiale du conseil régional, qui va s'en étonner, c'est normal. Bon, puis après tout, elle est peut-être compétente, n'est-ce pas?
Ah, ça peut.
Puis alors, il y a un commentateur sur moi qui m'a envoyé un petit mot d'une gentillesse extrême. Non, mais pourquoi vous vous offusquez, vous qui avez été aussi fonctionnaire d'État, fonctionnaire d'une grande. Enfin, occupant des grandes responsabilités dans une région, hein, et après tout, hein, un fils de boulanger succède à un boulanger. Non, mais attendez, mais franchement, comme si le fils de député devrait naturellement et, génétiquement bénéficier de la faveur de son papa pour occuper un emploi dans une... Franchement.
Si on va par là, si Mozart n'avait pas eu un père musicien, ça n'aurait pas été Mozart. Non, d'accord, posé comme ça.
Il y a quand même des gens qui te font des commentaires, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Quoi, en fait, hein. Bon. C'était bien écrit, donc c'est qui prouve que ce monsieur était bien placé, effectivement.
Voilà, mais enfin, bon.
Troisième exemple. Qui s'étonnera, par exemple, de constater que l'assistant parlementaire d'une députée de l'Hérault, hein, qui est aussi le premier fédéral socialiste, là, bon, allez, je précise, du même département, est aussi conseiller régional, en fait, de la région Occitanie, président d'une commission, en fait, importante de cette commission, et qui va s'en étonner, qui ira voir, vérifier si, effectivement, le travail d'assistant parlementaire qui lui a été confié n'est pas un emploi fictif. Alors, tu me diras, bon, il ne peut pas l'être, puisque la définition de son emploi, c'est « relation avec les élus ». C'est-à-dire une relation avec lui-même. C'est magnifique. Hein. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, dans nos propres régions, dans les territoires voisins, il y a des pratiques de ce genre, mais qui relèvent, je peux constater que pour quelqu'un qui a un peu de conscience historique, qui relèvent de pratiques et de mœurs, qui étaient effectivement ceux dans l'ancien régime, accordés une certaine noblesse.
Et quoi. Qui ont largement perduré. Et encore, tu n'évoques pas, alors plutôt au niveau national, la collusion permanente qu'il y a entre les politiques et les responsables économiques. Oh, mais... Parce que là, ça serait un autre sujet. Il nous faudrait 15 émissions pour arriver à en faire le tour.
Mais de la même manière, au plan local, je me suis bien placé pour en parler, m'étant occupé...
Aussi, sauf que les responsabilités sont à un autre niveau. Peut-être.
C'est souvent dans l'esprit d'un élu dominant, en fait, un chef d'entreprise de son territoire, c'est un otage, en fait, on va faire valoir. Donc, souvent, bon, un marché, par exemple, hein, local, dépend de la relation qu'on peut avoir avec celui qui va le signer, ce marché.
Alors, pour terminer cette deuxième partie, Michel, le plan littoral 21, donc de Carole Delga, de la région, n'est pas, selon toi, le sillage de la mission Racine des années 60. Alors explique.
Oui, parce que c'est...
Parce qu'il faut avoir vécu déjà la mission Racine pour en garder des souvenirs.
Oui, la mission Racine, quand même, pour les auditeurs qui ignoreraient...
Ah, ce fut quelque chose.
Ce fut quelque chose, hein, engagé par le général de Gaulle dans sa grande politique d'aménagement. Il avait envoyé quasiment en mission, en fait, en mission quasiment exceptionnel, quoi, hein, un grand serviteur de l'État, monsieur Racine, à qui arriva en terre vierge, si je puis dire, mais pas vierge de moustique, parce que à l'époque, c'était
en terre marécageuse.
En terre marécageuse, quoi, hein, c'était une succession d'étangs, de marécages, etc. Pour aller à Grussin à l'époque, il fallait. Bon, bref. Si nous avons aujourd'hui ce capital touristique que nous connaissons, hein, construit et développé autour des stations nouvelles dites du littoral, c'est grâce à ce monsieur qui...
ce monsieur et puis les budgets d'État.
Ses collaborateurs et les budgets d'État, en plus, dans un contexte tout à fait dérogatoire au droit classique de l'époque. C'est-à-dire qu'il faisait un peu ce qu'il voulait, dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand même. On ne pourrait pas faire aujourd'hui ce qu'il a fait en son temps.
Autre temps, autre mœurs, justement, par les mœurs. Mais alors, plan littoral...
Oui, non, mais j'en parle pourquoi. Parce que là, on n'est pas sur le contenu, on est sur mes remarques sur la campagne de communication qui a eu lieu à l'occasion de la signature, par Madame Delga, par le préfet de région, et par le patron de la Caisse des dépôts et consignations, hein, d'un contrat dit littoral 21.
Alors, qu'est-ce qui t'a semblé démesuré là-dedans ?
Non, Jean-Claude, il y a deux façons de faire de la communication en politique, enfin, quand on gère une collectivité locale. La première façon, la noble, hein, normale, sur laquelle je n'ai aucune remarque à faire, hein, c'est de faire connaître à ses électeurs, citoyens, hein, contribuables aussi, hein, les actions engagées,
informer
leur coût, et les résultats attendus.
Bien sûr.
Bon, c'est ça. Je vais vous faire savoir ce que je fais. Bon, c'est normal. Puis la deuxième, qui est moins noble, qui consiste tout simplement, à présenter, en l'occurrence, ça a été le cas, des paquets de projets, en fait, aussi vagues dans leurs objectifs qu'imprécis dans leur chiffrage, exagérément gonflés, je vais m'expliquer, tout simplement pour, voilà, vendre leur image, celle de l'institution.
Bon, mais là, on est dans la com,
Je fais un gros truc. Bon, mais c'était présenté de manière telle qu'effectivement, je reviens à la maison Racine, que, pour quelqu'un de tentatif, on aurait pu croire, en fait, en restant à la surface de la communication, que c'était quasiment un plan de même niveau, de même équivalence que celui engagé par la mission Racine à l'époque. Alors que pas du tout. De quoi s'agit-il ? Sur 3 ans, il s'agit ni plus ni moins que la consolidation, alors je m'explique, de l'addition des budgets, des subventions respectives de ces 3 institutions, y compris donc des prêts, parce que la Caisse des dépôts et consignations met en place des prêts, hein, pour, sur toutes les actions programmées, déjà programmées, sur les 3 ans. Donc voilà, on fait une convention, boum, 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 on fait venir les journalistes, ça part dans tous les sens, effectivement, on donne le sentiment qu'on fait des actions nouvelles, sur 3 ans, qui vont engager sur 1 milliard d'euros, déjà engagé sur chacune des actions.
Voilà, c'est quand même plus modeste, il faut le souligner, et tu le soulignes, que la mission Racine. On marque une deuxième pause, au terme de laquelle nous retrouvons notre invité Jacques Bascou.